Y Parejo, atención a la pérdida, roba Correa, Correa desde el medio, Correa. William Carballo, el autopase, William, por Dios, qué gol. El golpeo y el bueno sin botón, otra vez de Courtois, espectacular. Dice el árbitro que no pasa nada, Rakitic, que va a golpear.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligue Actu, la 28e journée au programme de ce nouvel épisode après la match nul, le joli match d'ailleurs entre Séville et le Celta aujourd'hui. Hier, on va débriefer aujourd'hui eh bien l'ensemble de cette journée qui se présente avec évidemment beaucoup d'enjeux à tous les étages. C'est vrai qu'il y a toujours la course à l'Europe, notamment dont on avait parlé la semaine dernière, qui se dispute, le maintien et puis même au niveau du haut de tableau. Il y a aussi pas mal de choses à dire après cette semaine de Copa, pareil, qui donc a vu le Real Madrid et Osasuna se qualifier pour la finale. Mais avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je suis avec Sacha aujourd'hui, qui bien sûr va m'accompagner pour parler de cette 28e journée. Comment tu vas?
Écoute, Réfé, ça va. On se remet péniblement de la déconvenue terrible de mercredi soir avec ce classico perdu. Ce score qui fait très très mal, mais bon voilà, un nouveau week-end de Liga. Bon, le Barça qui joue bien sûr lundi pour clôturer cette journée, mais voilà, il y a vraiment de belles affiches, beaucoup d'enjeux et on va essayer de décrypter un peu tout ça.
Voilà, exactement. C'est vrai que bon, le score n'était pas le même à San Mamés, mais pour la peine de l'élimination, en tout cas, on se rejoint sur ce point. C'est vrai que c'était pas spécialement attendu, mais effectivement, il y a eu en tout cas des surprises pour Osasuna et pour le Real, en tout cas en termes au niveau du score. Mais on va directement donc commencer par cette journée de Liga, puisque du coup, je parlais de Séville au début de ce podcast. Ça va être le premier sujet de notre débat. Ça va être Mendilibar, qui bon, est arrivé maintenant depuis à peu près 2 semaines, qui a fait le premier match la semaine dernière avec une victoire du coup contre Cadiz 2-0, et puis ce match nul contre le Celta hier 2-2. Séville qui gagnait 2-0, qui s'est effondré dans la fin de match, mais en ayant joué quand même une grosse partie du match à 10 contre 11 pour finir au final à 9 contre 11, et donc un score de 2-2. Pour toi, Sacha, est-ce que tu vois Mendilibar être capable de sauver cette équipe de Séville? On sait que c'est quand même quelqu'un qui voilà, a coaché pas mal de clubs, notamment de bas de tableau, qui a un sacré vécu aussi en première division. Est-ce que tu le sens capable de sauver une équipe comme Séville sur cette fin de saison?
Je pense déjà que c'est vraiment un profil qui colle à la situation du club. Longtemps, ils ont tergiversé avec Lopetegui, on a vu ce que ça a donné. Ils n'ont pas pris la mesure de la catastrophe en prenant Sampaoli, en imaginant qu'il était capable de refaire partir l'équipe et de la remettre directement dans la zone européenne. Voilà, ça, on a vu ce que ça a donné aussi. Ce n'était pas du tout en corrélation avec ce que doit affronter le club cette saison. Là, on se retrouve quand même avec Mendilibar, tu l'as très bien dit, un entraîneur qui est quand même assez expérimenté, qui a fait de très bonnes choses avec Eibar et qui sait un peu comment gérer ce genre de match au couteau, vraiment très difficile, où tu n'as pas le droit à la défaite. L'avantage, c'est quand même que dans ce groupe du Séville, petit à petit, l'infirmerie se vide, et on se rend bien compte quand même qu'il y a beaucoup de qualités. Une inconnue que j'ai, c'est quand même Youssef En-Nesyri, c'est quand même un super attaquant. De toutes les équipes qui se battent pour le bas de tableau, c'est vraiment un joueur différentiel. Hein. Aucune autre équipe ne peut se targuer d'avoir un tel joueur. Et pour le système de jeu de Mendilibar, c'est vraiment du pain béni. On a vu notamment ses très bonnes performances face à Cadiz, là encore hier face au Celta. Alors, tu l'as dit aussi, face au Celta, il y a cette grosse partie du match où ils sont à 10, ils finissent même à 9. Il craque en toute fin de match face à une équipe qui, elle aussi, s'est vraiment repris. Hein. C'était deux équipes qui, à un moment de la saison, étaient au bas de tableau, mais ont un effectif tellement supérieur à ça qu'elles finissent par remonter. Je pense que vraiment le Séville va arriver à se maintenir. Ils ont un calendrier qui ne sera pas simple dans les prochaines semaines, mais là, on a quand même l'impression, voilà, comme je l'ai dit, que le club a vraiment conscience de la situation dans laquelle il était, à voir aussi ce que ça va donner la semaine prochaine avec ce duel face à Manchester United, comment ils vont aborder cette Ligue Europa, parce que mine de rien, en faisant peut-être un bon résultat à l'aller, tu peux te permettre de rêver, ça reste une compétition qui est dans l'ADN du club et ça peut être aussi l'échappatoire à cette fin de saison qui est quand même dure, hein, parce que même s'ils commencent à enchaîner les victoires et à se replacer un petit peu vers le ventre mou, ça restera une saison compliquée avec des joueurs qui ne sont pas du tout habitués habitué à jouer pour ce genre d'objectif. Donc voilà, je pense que mine de rien, le club est sur de bons rails quand on compare avec les équipes qui sont menacées directement par la zone rouge, et on en parlera juste après. Il y a quand même une grosse différence de niveau. On sent que les joueurs sont aussi. Ils adhèrent un peu au message de Mendy Libar, quoi. On sent quand même qu'il y a beaucoup moins d'interrogations, qu'il y a un climat qui est beaucoup moins hostile. Sampaoli, on le sait, c'est ça passe ou ça casse. Et on a quand même très rapidement vu que ça allait casser. Ce qu'il a maintenu en poste, c'était un petit peu les indemnités de licenciement que le club devait lui donner. Il y a quand même un litige là encore là-dessus. Hein. Si je ne me trompe pas, la semaine dernière, on a eu un article dans Marca, dans Mundo Deportivo, pardon, qui nous disait que il n'y avait toujours pas réellement d'accord entre Sampaoli et le Sevilla, et que ça allait peut-être causer du tort au club pour le mercato prochain avec d'éventuelles sanctions. À voir comment ça va se démêler, mais voilà, ils ont, je pense, pris une décision courageuse, une décision d'autocritique, hein, en montrant qu'ils s'étaient plantés. Ils ont dépensé beaucoup d'argent cette saison entre Lopetegui et Sampaoli, mais là, je pense qu'ils ont fait le bon choix, et le club devrait normalement éviter la catastrophe.
Mais oui, c'est ça, c'est que tu l'as dit, il y a eu beaucoup de temps de perdu. Au final, Mendy Libar, bon, on en discutait dès là déjà, mais c'est un profil qui est connu en Espagne, parce que d'ailleurs, il a fait, si je ne me trompe pas, toute sa carrière d'entraîneur en Espagne. C'est vrai que on sent que c'est, lui-même l'avait dit d'ailleurs dans sa conférence de presse, c'est pas un cadeau d'arriver dans une situation pareille, mais si lui a accepté, c'est qu'il sait que ben, cette équipe, elle a quand même, tu le disais très bien, elle a quand même des qualités. Et on voit bien maintenant quand les blessés reviennent petit à petit. Et on sent bien que c'est un habitué, même si encore une fois, voilà, c'est pas un plaisir d'entraîner dans ce genre de situation, évidemment. On voit bien que c'est quand même quelqu'un qui est relativement habitué à travailler sur des situations qui sont complexes et dans lesquelles il faut faire un peu le pompier de service. C'est vrai que avec Eibar, bon, effectivement, ça s'était mal terminé, mais il était quand même resté très longtemps au club et bon, il a quasiment couvert toute l'histoire du club en fait en première division. Et après, il y avait eu aussi la saison dernière un passage à l'Alavés qui avait été un peu moins réussi, mais c'est vrai qu'à l'Alavés, c'est pareil, avec une saison très compliquée. En tout cas, là, on voit bien que voilà, il a un effectif de qualité quand même. Et je pense que un des points qu'il montre, c'est quand même les gardiens, parce que lui-même en a parlé en conférence de presse, qu'il n'hésiterait pas de temps en temps à faire tourner, à faire jouer les deux gardiens, parce que ce sont deux gardiens de qualité. Et on voit bien d'ailleurs que Mitrovic, qu'il a connu notamment à Eibar, qu'il a entraîné à Eibar, on voit bien qu'il joue beaucoup plus depuis un temps et qu'en tout cas la relation avec Bono est saine, mais qu'il y a quand même une certaine concurrence entre les deux et ça va être aussi intéressant, très intéressant à suivre sur cette fin de saison. Mais voilà, en tout cas pour revenir à la question de base qui était sauver Séville, je pense que oui, et c'est vrai que même mine de rien ça semble peut-être un peu compliqué, mais aujourd'hui c'est vrai que Séville et non plus, enfin, et pas non plus si loin de l'Europe. Alors, ça semble compliqué évidemment de les voir européens, mais voilà, quand on voit que le train, notamment avec l'Athletic, le Rayo, le Celta, avance un petit peu moins depuis quelques journées, Osasuna aussi d'ailleurs, avance un petit peu moins depuis quelques journées. C'est vrai que si Séville finit en beauté et que les autres équipes devant galèrent un peu, il peut y avoir en tout cas une lutte sur ça, ou du moins sur la 7e place, parce que au-dessus, ça sera compliqué. Mais Mendy Libar, en tout cas, oui, a tout à fait le profil pour sauver cette équipe de Séville. Et je pense que le bagage notamment qu'il a, parce que c'est un des coachs les plus capés, si je puis dire, de première division espagnole, va largement suffire. En tout cas, après, il y a des matchs importants, notamment, tu parles de Manchester United qui arrive. Il y a même la semaine prochaine un match important aussi contre Valence qui arrive en Liga, donc qui sera un choc plus ou moins direct pour le maintien, même si maintenant les deux équipes ont un petit écart au tableau. Donc voilà, c'est en tout cas ce qu'on va suivre dans les prochaines semaines. Mais Séville revient mieux depuis quelques temps et forcément avec ce que Mendy Libar veut tenter d'imposer, parce qu'hier on a très bien vu que en 70 minutes, Séville avait quand même tenu tête au Celta, qui, voilà, on l'a dit aussi, est une très bonne équipe en étant à 10 contre 11. Donc voilà, il y a des motifs d'espoir en tout cas. Et puis bah, Valence, j'en parlais justement, on va basculer sur ce second point maintenant, parce que il y a un match capital ce dimanche entre Almeria et Valence. Almeria qui est 19e, Valence 17e, les deux équipes à 27 points. Je vais te passer la parole, Sacha. Est-ce qu'on pourrait même parler de malheur au vaincu pour celui qui perdra, tant la situation est quand même tendue pour le bas de tableau.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben on se rapproche de la fin de saison, et c'est vraiment des matchs couperets, des matchs entre concurrents directs qu'il ne faut pas perdre. Et pour moi, c'est un match qui est vraiment très important parce que ben, je vais commencer avec Almeria. C'est une équipe qui a pris beaucoup de buts cette saison. Ils ont une différence négative de moins 15 et on sait qu'à l'extérieur, c'est vraiment pas leur fort. C'est pas une équipe qui arrive à développer son jeu. Ils ont besoin de l'appui de leur public et la majorité de leurs points, ils les ont glanés à domicile. C'est l'une d'ailleurs des meilleures équipes de Liga cette saison quand elle joue à domicile. Et c'est assez paradoxal de la retrouver si bas au classement. En général, quand on est fort chez soi, on ne se retrouve pas 19e comme ça. Maintenant, entre justement le 19e Almeria et le 15e Cadiz ou même le 14e Getafe, tout se tient en 3 points. Donc c'est vraiment aussi le genre de match pour eux qui peut leur permettre de faire un bon classement et on sent que dans cette lutte en fait pour le maintien, le côté psychologique va être très important. Et je pense que les équipes qui passeront le moins de temps à l'intérieur de cette zone rouge auront peut-être le plus de chances de se sauver parce que pour préparer les matchs, je pense qu'ils arriveront à avoir un peu cette tranquillité d'esprit par rapport aux autres qui seront vraiment dans l'urgence. Après, malheureusement, pour Almeria, c'est quand même une équipe qui a perdu son atout majeur, El Bilal Touré, qui a marqué pas mal de buts, qui avait d'ailleurs été le buteur contre le Barça il y a maintenant presque 2 mois. Voilà, c'est un joueur un peu quand même superlatif pour cette équipe. On le sait, hein, on en parlait avec Nesyri juste avant. Toutes ces équipes-là, en général, quand elles ont un buteur, elles arrivent à s'en sortir. C'est pour ça, par exemple, pour Getafe, on peut penser qu'avec la doublette Enes Unal et Borja Mayoral, ça va le faire parce que c'est quand même des joueurs qui sont capables de mettre le but quand il faut, de gagner un match qui est tendu et que ça fasse au final la différence. Donc voilà, pour Levante, Almeria, c'est vraiment un match très important, un gros rendez-vous à pas louper quand on connaît un peu la physionomie de leur saison. Et puis du côté du Valencia, on a quand même une équipe qui, mine de rien, depuis que l'entraîneur Baraja est de retour sur le banc, on voit de l'amélioration. Il y a eu quelques résultats, alors très poussifs, hein, on va pas se mentir, face à la Real Sociedad et Osasuna à Mestalla, mais ça a eu le côté positif est de donner quand même pas mal de points. Il y a eu ce très bon match réalisé récemment la dernière journée face au Rayo avec une vraie domination, de grosses occasions. Le ballon ne voulait pas rentrer, mais au final, ils ont quand même réussi à égaliser. C'est un point qui leur a fait du bien, qui leur a permis de sortir de la zone rouge. Et justement, ça fait écho à ce que je disais juste avant. Ça leur donne quand même une belle bouffée d'oxygène. On sent que la presse est un peu plus calme, que les joueurs ont un peu plus le sourire. On sent que le climat s'apaise. C'est vraiment très important pour eux. Et je pense que voilà, justement, en allant à l'extérieur, tu sortais l'information sur la page ce matin du Diario AS. Ils n'ont jamais perdu du côté d'Almeria. Donc voilà, c'est vraiment un match couperet pour eux aussi. Arriver à enchaîner après cette victoire face à Osasuna, ce nul face au Rayo, et avec une victoire face à un concurrent direct, ça donnerait quand même du corps à cette série. Et à quoi, 9 journées de la fin après ça, avec 27 points encore à distribuer, ça les mettrait vraiment sur de bons rails. Au contraire, une défaite là, par contre, ce serait quand même très très compliqué. Ça ferait retomber un peu toute cette espèce d'espoir, parce que vraiment, le match face au Rayo Vallecano était un match de bonne facture. On sent que l'équipe comprend petit à petit ce qu'elle a à faire. C'est une équipe qui revient quand même de très 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 loin. La fin de la période Gattuso a fait beaucoup de mal, alors qu'en début de saison, on était assez optimiste pour eux. Il y a quand même aussi l'année dernière, je pense qu'il faut y faire écho, un an de Bordalas. Pour certains joueurs, ça peut aussi faire quand même beaucoup de mal. Donc voilà, petit à petit, ils sont en train d'essayer de remettre les choses en place. Et c'est le genre de match qui peut décider d'une saison. Donc le Valencia, comme Almeria, n'ont pas le droit à l'erreur et ça va être très très intéressant à suivre.
Oui, parce qu'on l'a bien résumé, tu l'as bien résumé. D'ailleurs, la course est encore très longue et en tout cas, cette victoire, les 3 points, si jamais une des deux équipes les prend, vont peser lourd parce que effectivement, on voit que le maintien, en tout cas, sera probablement un des plus difficiles à obtenir ces dernières années vu comment c'est serré, même si c'est vrai qu'il y a certaines équipes maintenant qui se décantent, enfin qui s'écartent un peu de ce groupe de menacés de la relégation, on va dire. Mais en tout cas, il y a toujours un bon groupe qui reste menacé si on exclut Elche qui semble un peu condamné déjà. Mais voilà, pour la 18e et 19e place, en théorie, ça devrait être très, très disputé. Et puis maintenant, on va remonter un peu, on va parler de la course à la C1. Je vais d'abord dire quelques mots, puis après, si jamais tu veux compléter, Sacha, ce sera avec grand plaisir, parce que c'est vrai que cette course à la C1, bah, mine de rien, maintenant, en tout cas, elle est à peu près dessinée. On est plus ou moins sûr que ça va être la 4e place qui sera en jeu, puisque l'Atlético gagné le week-end dernier et la Real s'est effondrée du côté de Villarreal, défaite 2-0. Le Betis aussi a perdu d'ailleurs contre ce même Atlético 1-0. Donc en fait, ce qui était intéressant dans le week-end passé, on avait d'ailleurs beaucoup parlé dans le podcast du week-end dernier, c'était en fait que le 3e, 4e, 5e et 6e s'affrontaient à distance et s'affrontaient même entre eux pour certains matchs. Et en fait, on voit bien que ce week-end nous donne juste une course à l'Europe, à la C1, même encore plus resserrée, parce que certes, l'Atlético se rapproche non, mais en tout cas maintient l'écart avec le Real Madrid et a mis la Real Sociedad à 6 points. Donc vraisemblablement, Atlético est quand même bien parti pour terminer troisième. C'est une équipe maintenant qui est pratiquement invaincue en Liga depuis 3 mois. C'est aussi quelque chose qu'il faut souligner, c'est énorme. Donc voilà, on va pouvoir les exclure entre guillemets petit à petit cette course à la C1, parce que malgré les doutes qu'on pouvait avoir en début de saison, cette équipe est en train de revenir très fort. Mais c'est vrai que la Real derrière accuse quand même pas mal le coup. Et au final, on voit bien que cette Real, elle est dans la course toujours, mais qu'elle voit ses adversaires revenir. Villarreal, qui était encore il y a à peu près une dizaine de points il n'y a pas si longtemps, n'est plus qu'à 4 points de la 4e place. Le Betis est toujours à 3 points. Et on voit bien toi que ce week-end Paris va être décisif pour toutes ces équipes-là, parce que surtout notamment pour Villarreal, on va y revenir peut-être après au moment du match du Real Madrid, mais Villarreal va donc affronter les Merengues ce soir. Et donc ça va être un vrai duel. Maintenant, ce qui paraît plus ou moins, en tout cas clair à mes yeux, c'est que j'ai du mal en tout cas à voir Villarreal se mêler dans la course à la C1 sur le long terme, parce que voilà, on voit bien que Setién fait du travail qui est quand même plutôt du bon boulot, mais on sent bien que cette équipe quand même a certaines lacunes par moment. En revanche, ce qui va dépendre pour moi de tout ça, c'est aussi la forme de la Real. Autant je vois le Betis être capable de tenir le coup jusqu'en fin de saison, autant on voit bien que cette Real Sociedad elle connaît des périodes plus difficiles, et notamment face aux adversaires directs qui lui posent des gros soucis. La semaine prochaine aussi, il y a le derby à San Mamés qui va être difficile à négocier pour les deux équipes, mais particulièrement pour la Real qui sera pas chez elle non plus. Et c'est vrai qu'en tout cas ce match-là qui arrive va donner pareil beaucoup d'indications sur cette capacité de la Real à pouvoir lutter contre les adversaires directs. Et en même temps le Betis, voilà, pour finir sur ça, le Betis qui voilà, pour moi fait des matchs un peu plus poussifs depuis quelques temps, mais qui voilà globalement arrive à s'en sortir. C'est vrai que la défaite ça a été dit qu'au final, même quand on regarde ça, elle arrive quand même à la toute fin. C'est un but de Correa dans les dernières minutes. Si on rajoute à ça le fait que le Betis n'avait ni Canales ni Fekir ce jour-là, qui sont quand même deux éléments cruciaux de cette équipe, voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte même. Donc non, bien sûr, ça va être en tout cas la vraie lutte pour cette fin de saison. Elle va être passionnante, en tout cas en haut de tableau. Et moi, je donne peut-être un petit avantage aux Bétis au vu de tout ce qu'on a pu dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre la 4e et la 6e place, il n'y a que 4 points, et que ces 4 points vont être minces, parce que l'écart peut vite se résorber, en tout cas entre ces trois équipes. Et puis ça, si tu veux dire quelques mots sur ça avant qu'on parle de l'athlétique plus en détail, je te laisse la parole.
Non, mais tu as été très complet. Et c'est vrai que bah, pour parler vite fait de la Real Sociedad, moi je pensais la semaine dernière qu'ils étaient capables de s'imposer du côté de la Ceramica. Et ça nous a donné finalement une belle victoire de Villarreal. Donc on a une grosse lutte pour cette 4e place. Je pense qu'ils sont dedans. C'est un week-end qui va être très intéressant parce qu'on ne s'imaginait pas vraiment, ben, comme tu l'as dit, Villarreal capable de se mêler à cette lutte-là. Setién fait du bon boulot, je te suis. Mais il y a quand même aussi des grosses périodes de trous. On sent voilà, c'est une équipe, c'est un peu les montagnes russes. Quand elle performe, et quand elle performe pas, c'est compliqué de voir la lumière au bout du tunnel. C'est une équipe de série, on va dire. Et là, ce qui va être très intéressant dans cette lutte pour la 4e place, bah, c'est que Villarreal, pour moi, c'est le week-end où, s'ils sont vraiment candidats, on va le savoir, parce que la Real Sociedad et le Real Betis affrontent chez eux deux candidats au maintien, à la relégation, Cadiz pour le Betis et Getafe pour la Real, quand Villarreal va se déplacer du côté du Real Madrid. Le Real Madrid qui reste sur un immense carton face à Valladolid et une brillante qualification au Camp Nou en Copa. Donc là, vraiment, pour Villarreal, c'est le genre de match où s'ils sont capables de prendre des points, ou du moins de rester dans cette dynamique, on pourra se dire que là, oui, s'ils sont capables de sortir ce résultat, c'est une équipe qui peut, sur les 9 dernières journées, jouer sa chance et pourquoi pas gratter un ticket pour la Ligue des Champions. Si tel devait être le cas, ce serait quand même vraiment à mettre au crédit de Setién, parce que malgré quelques turbulences, s'il arrive à amener cette équipe dans le top 4, quand l'année dernière, Unai Emery, même malgré une demi-finale de Ligue des Champions, n'a pas été capable de les amener plus haut que la 7e place, et qui en plus a quitté le navire en tout début de saison avec perte et fracas, ce serait quand même vraiment à mettre au crédit de Setién. Il y a eu cette victoire du coup contre un concurrent direct, c'est important, on le sait, c'est une Liga qui est extrêmement serrée, hein. Alors il y a vraiment bon, le dernier et le premier qui semblent vraiment détachés, mais après sinon on a plein de petits groupes un petit peu à diverses hauteurs du classement, donc c'est assez intéressant à voir, mais voilà, ça va être un week-end vraiment passionnant, à voir comment le Bétis va réagir aussi face à Cadiz. Cadiz qui, pour en dire quand même aussi un petit mot, c'est une équipe qui depuis le mercato, on l'a répété déjà, mais affiche quand même un visage assez sympathique, ça change, ça essaye de jouer un peu, et je pense que ça peut être un match assez intéressant entre ces deux équipes andalouses. On sait qu'en ce moment, il y a un peu une solidarité andalouse dans cette Liga, avec ces clubs de cette même région qui s'estiment un peu lésés par l'arbitrage. Donc voilà, ça va être aussi assez intéressant à suivre. Puis sans transition, pour passer sur l'Atlético de Madrid, ça fait écho justement à cette lutte pour la Ligue des Champions. Il y a eu justement cette période un peu post-Coupe du Monde où on se demandait si ce n'était pas la dernière saison du Cholo Simeone, si pour cette fois-ci le train de la Ligue des Champions allait leur échapper, parce que le Betis, parce que la Real Sociedad, parce qu'aussi Villarreal, parce qu'il y avait des mauvaises performances. Et finalement, non, c'est une équipe qui, maintenant qu'elle n'a plus qu'un match par semaine, vraiment enchaîne les résultats. Encore une fois, face au Betis, ça peut basculer dans l'autre sens et finalement Correa met le but qu'il faut et là vraiment amène l'Atleti sur de très 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 bons rails, hein. Ils ont quand même 6 points d'avance maintenant sur la Real, 9 sur le Real Betis. Ça semble quand même, le trou semble être fait. Et ils ont maintenant, eux, pour objectif, d'ici cette fin de saison, avec les matchs qui leur restent, de pourquoi pas revenir sur le Real Madrid. Et ce week-end peut aussi être intéressant, parce qu'on parlera du Real Madrid juste après. Mais bon, avec la Ligue des Champions et la Copa, du coup, ils ont peut-être un peu moins la tête à la Liga, surtout qu'en plus, la Super Copa l'année prochaine, ben, ils y seront, vu qu'ils sont en finale de Copa. Donc, à voir un peu comment ça peut s'arc-bouter. Mais voilà, l'Atleti, je pense que c'est une fin de saison qui va être très importante pour eux pour préparer justement la saison prochaine. Je pense que Cholo a eu chaud aux fesses, mais au final, il a réussi, je pense, à renverser la vapeur et à encore plus sécuriser son poste, parce que mine de rien, voilà, le départ de João Félix, on sait que c'était un schisme, hein, à l'intérieur du club. Au final, les résultats lui donnent raison, avec en plus, moi je trouve du jeu. Je trouve que c'est une équipe qui retrouve des couleurs. On retrouve un peu le cholisme d'il y a quelques années. Alors oui, c'est sûr que c'est pas un football champagne extraordinaire, mais mine de rien, ça va vite, ça percute, c'est sérieux. Moi, je trouve qu'on a un bel Atlético de Madrid quand même sur cette fin de saison, et bien sûr un excellent Antoine Griezmann, joueur du mois au mois de mars. On avait déjà évoqué ça, mais voilà, je pense que c'est une fin de saison pour préparer la saison prochaine, avoir un peu tous les chantiers qu'ils vont avoir, notamment en défense. Ça risque d'être intéressant, mais voilà, sur ces derniers matchs, il leur reste encore des rendez-vous assez sympathiques à jouer, notamment ce déplacement au Camp Nou d'ici 2 semaines. C'est un déplacement qui, on ne sait pas, pourrait aussi avoir encore son importance sur cette fin de Liga, mais voilà, en tout cas une fin de saison pour les Colchoneros assez tranquille, je pense, pour reprendre confiance et pourquoi pas continuer un projet qui est un projet assez unique en Europe. Le Cholismo, ça fait plus de 10 ans, et c'est quand même une belle histoire qui continue d'écrire.
Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que Atlético, bon, on en parlait juste avant, mais il y a quand même une certaine, voilà, qu'il y a une certaine, voilà, assurance qui se dégage. Et puis voilà, je regardais, c'est vrai que c'est 4 victoires de suite là, effectivement, sur les derniers matchs, avec en plus quasiment, oui, quasiment pas de but encaissé, enfin 3 clean sheets consécutifs. Quand on sait que la faiblesse de cette équipe, c'était notamment une des faiblesses de cette équipe, c'était notamment, surtout la saison dernière, en début de saison, mais plutôt la saison dernière d'ailleurs, le nombre de buts encaissés. Voilà, on voit bien que c'est plus tout la même équipe, et qu'en tout cas il y a eu un vrai comment dire, oui, une vraie équipe qui s'est reprise et qui s'est relancée, parce que là Notamment, je regardais ça, c'est 19 buts encaissés en 27 journées, quand l'année dernière, on est à 43 buts encaissés pour 38 matchs. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une vraie différence et que Atlético terminera probablement deuxième meilleure défense de Liga derrière le Barça qui, cette année, a des chiffres incroyables en défense. Mais voilà, on retrouve en tout cas Atlético qui sait faire mal et qui, petit à petit, bah, est en train voilà, de revenir à un niveau très intéressant et une équipe sur laquelle va falloir compter.
Ouais, puis comme tu le dis, ben, il va falloir compter sur eux. Et puis bon, j'essayais de trouver une transition, mais comment ne pas parler de cette filiation père-fils? Chacun fera sa propre idée là-dessus. Mais on a parlé de l'Atlético de Madrid, il faut parler de l'Athletic Club maintenant. L'Athletic Club qui est passé à côté encore une fois d'une demi-finale, d'une finale de Copa, une potentielle finale. L'année dernière, c'était Valence qui s'imposait et qui prenait son ticket pour aller affronter le Betis. Là, cette année, c'est Osasuna. C'est une défaite qui fait mal, tant le match, à mon sens, était maîtrisé de la part de l'Athletic. Et on se rend compte que cette saison, quand même, l'objectif était de finir en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas péril dans la demeure? Est-ce que la saison d'Athletic peut tourner à la catastrophe?
Ben, malheureusement, oui, tu l'as dit, c'est au final un peu le même scénario de tous les ans qui est en train de se répéter. Alors, la finalité sera peut-être pas la même, et j'ose en tout cas espérer qu'elle ne sera pas la même. La différence qu'il y a par rapport aux autres années, c'est que généralement, Athletic, on va dire aussi pour la 7e, la 8e place, à cette période de l'année, cette année, on voit bien que. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes, notamment le Rayo, Osasuna, qui sont dans cette même lutte, il y a quand même une qualité qui est normalement au-dessus. C'est vrai que Séville n'est pas là cette année, donc ça dégage une place devant. Maintenant, effectivement, il y a quand même un gros risque. Pour revenir rapidement sur cette demi-finale de Copa, bah, évidemment, c'est une énorme désillusion, surtout quand on voit le match qui a été fait. Et c'est la même histoire de souvent, enfin, qui arrive quasiment tout le temps pour ceux qui ont l'habitude de regarder Athletic. Ce sont des matchs réussi, abouti, où les occasions se multiplient, s'enchaînent, et au final, ça n'entre ou ça n'entre en tout cas que très peu, voire pas du tout, et c'est le problème, parce que Atlético a dominé, je vais pas dire pendant 120 minutes non plus, mais pendant au moins une bonne centaine de minutes, il y a eu le contrôle du match contre cette équipe d'Osasuna, il y a évidemment la fatigue, bon, à la fin qui s'est fait ressentir, et c'est normal, mais il y a eu, oui, voilà, il y a eu domination, un contrôle sur tout ce match. Au final, ça termine avec une désillusion et un golazo d'Ibanez qui met un super but d'ailleurs qui renvoie Osasuna en finale. C'est vrai que sur l'ensemble des deux matchs, au final, je pense qu'on a dit qu'on aurait mérité de passer, mais c'est ce que beaucoup de joueurs ont dit et ont constaté. Le mérite dans le foot, enfin, c'est d'ailleurs pas nouveau, mais le mérite dans le foot, ça n'existe pas spécialement. C'est-à-dire que certes, on a fait un bon match, certes, il y a eu des occasions, certes, il y a eu une domination presque totale, mais encore une fois, moi je répète juste que le vrai problème, c'est le manque de buts et mine de rien, ça devient pesant de plus en plus d'année en année parce qu'on voit bien qu'il manque un buteur à cette équipe, on voit bien qu'il manque quelqu'un pour finir les occasions et sans ça d'ailleurs, beaucoup de supporters de l'Atlético le partagent, mais sans ça, enfin sans ça ou plutôt avec un buteur, l'Atlético serait bien plus haut au classement et on voit bien que d'ailleurs cette saison les chiffres sont pas si mauvais en termes de buts marqués parce que. Voilà, Atlético est quand même une des meilleures attaques de Liga, ce qui n'est pas le cas généralement, mais en fait on voit bien que sur ces buts qui ont été marqués, ce sont beaucoup des buts qui ont été marqués lors de matchs uniques, c'est-à-dire sur des 3 ou 4-0. Mais en même temps, il y a aussi, je crois, une bonne dizaine de matchs, même si c'est plus, je crois, j'ai pas la stat en tête exactement, où Atlético n'a pas marqué cette saison. Donc on voit bien que ça aussi c'est un vrai souci, et que cette équipe, en fait, elle est capable de faire le pire comme le meilleur offensivement. Donc voilà, donc cette élimination en Copa évidemment est une vraie désillusion parce qu'en plus d'un titre qui aurait pu être à la clé, c'est surtout une place en Europa League qui se complique parce que ça revient à ce qu'on disait avant, mais voilà, ce sera très compliqué maintenant de lutter pour une place en Europa League. Le Betis, la Real et Villarreal bon, vont se battre pour la 4e place, mais les deux autres en tout cas prendront assurément la 5e et la 6e. Maintenant, voilà, ce qui va être compliqué encore une fois, c'est que la fin de saison va dépendre de la Copa, parce qu'on rappelle qu'en fait la 7e place n'est européenne et qualificative pour la Conférence League que si jamais le vainqueur de la Coupe d'Espagne est déjà qualifié en Europe. Donc, autrement dit, étant donné que la finale sera Real Madrid-Osasuna, Osasuna a relativement peu de chances de terminer dans le top 6. Ça voudrait dire que pour que la 7e place soit européenne, il faudra que le Real Madrid l'emporte. Et c'est sur ça aussi que la fin de saison va jouer, parce que va falloir donner le meilleur, va falloir faire de son mieux, comme tout le temps, évidemment. Mais ce qui est pénible, c'est de te dire que bah, en fait, le destin de l'Atlétique n'est pas entre les mains de l'effectif en lui-même, quoi, et que il va falloir en tout cas souhaiter une victoire du Real Madrid pour espérer se qualifier en Europe. Donc voilà, jusqu'à la fin de saison, l'objectif va être celui-ci, mais disons qu'en tout cas, je ne parlerai pas de catastrophe dès maintenant, mais que c'est vrai que si on regarde qu'on a plus que l'Atlétique n'a plus qu'un point d'avance sur le Celta qui est 10e avec certes un match de plus, la situation en tout cas est plus aussi rose qu'au début de saison, qu'après le mondial. Et maintenant, voilà, ça va être vital de se relancer. Ça commence dès ce match cet après-midi face à l'Espagnol, parce que l'Espagnol est pareil une équipe qui va mal mais qui a changé d'entraîneur. Donc, voilà, un terrain sur lequel aussi l'Atlétique a eu du mal ces dernières saisons. Mais voilà un peu comment je pourrais résumer ça. On va bien sûr continuer de suivre les matchs et il va y avoir en tout cas un vrai combat pour assurer cette 7e place. Mais ça va être difficile de viser plus haut et il faudra en même temps avoir un peu de chance et espérer que le Real Madrid remporte cette Copa pour bien avoir une place en Europe potentiellement qui sera en tout cas très disputée. Et puis justement, bah, on va dire quelques mots maintenant sur le Real Madrid. J'en parlais à l'instant, mais sur cette fin de saison du Real Madrid parce que. Tu avais commencé à en parler rapidement, Sacha. Je vais dire quelques mots, puis après, je te laisserai compléter sur ce point. C'est vrai que le Real Madrid en soi, en Liga, bon, il n'y a plus tellement de suspense. Il y a 12 points d'écart. C'est en tout cas, ça semble très, 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 très compliqué d'imaginer une remontada à ce stade de la saison, surtout quand on voit l'assurance du Barça en Liga, tout simplement. Mais à côté, effectivement, il y a la Ligue des Champions qui reprend bah, dès la semaine prochaine. Il y a aussi cette victoire donc, au Camp Nou qui a été synonyme d'un passage une qualification du coup en Copa qui pareil la finale de Copa qui va arriver très bientôt dans moins d'un mois c'est le 6 mai donc on peut effectivement voir un Real Madrid peut-être un peu plus sur la rotation sur la gestion c'est une équipe qui pour moi quand même va assurer sa 2e place même si Atlético revient très fort mais on peut peut-être s'attendre à voir un Real Madrid qui soit quand même beaucoup moins comment dire à fond dans certains matchs et encore une fois c'est pas forcément c'est pas forcément en tout cas quelque chose qui veut signifier qu'ils vont avoir de moins bons résultats parce que on connaît cette équipe du Real, on sait très bien que même quand elle n'est pas à 100%, et même souvent quand elle n'est pas à 100% d'ailleurs, c'est une équipe qui pourtant arrive à s'en sortir, je vais pas dire enfin convenablement, mais ce serait presque le terme. Il y a eu un nombre quand même assez incalculable de matchs, peut-être moins cette saison, mais voilà, enfin même la saison dernière en tout cas, qui ont été remportés par le Real sans qu'ils aient la mainmise sur le match. Une équipe qui. Voilà, malgré toutes les absences, malgré tout ça, peut quand même s'en sortir. C'est vrai que je dis quand même toutes les absences, on voit bien que sans Benzema, comme cette équipe n'est plus la même, ça c'est quand même un point qu'il faut préciser. Sans Courtois et Benzema, en tout cas, on voit bien que l'équipe est plus totalement la même. Donc il y a forcément des dépendances un petit peu à ces joueurs-là. Mais voilà, moi je pense qu'on va avoir un Real Madrid et voilà, Sacha le disait aussi un peu avant. On va voir un Real Madrid peut-être un peu plus sur la réserve en Liga, sans pour autant forcément perdre beaucoup de points. Mais un Real Madrid qui va maintenant se concentrer peut-être sur la Ligue des Champions, qui, bon voilà, certes, Engie, on en parlait justement il y a quelques temps, qui nous disait que ce n'était pas forcément l'objectif du Real Madrid, tout comme l'an dernier d'ailleurs. Et au final, on voit bien que, bah, mine de rien, ce Real Madrid, bah, en quart de finale de Ligue des Champions contre Chelsea qui bon certes c'est pas une grosse saison mais qui vient de changer d'entraîneur aussi donc ça va être pareil un point également très intéressant à suivre et puis cette finale de Copa qui sera donc un match unique début mai mais voilà qui sera pareil en tout cas très important pour le Real puisque le Real n'a pas remporté la Copa depuis quasiment 10 ans la victoire remonte à 2014 et c'était avec Ancelotti justement donc voilà peut-être un Real Madrid un peu plus diminué entre guillemets en Liga, mais qui pour autant va pas lâcher tant de points que ça, j'imagine. Mais qui, voilà, en tout cas ne reviendra pas sur le Barça, c'est une certitude maintenant. L'objectif, ça va être plutôt d'assurer la deuxième place face à Atlético. Et puis, bah, Sacha, avant qu'on clôture ce podcast en parlant du Barça Girona, est-ce que voilà, tu avais quelques mots aussi pareil à dire sur la fin de saison du Real Madrid en championnat?
Non, je pense que tu as été très complet là-dessus. C'est vrai que maintenant l'écart en Liga est tel que ça semble incroyable. Je pense que honnêtement, ce dernier match face à Girone, enfin ce prochain match face à Girone du Barça va dire beaucoup. C'est peut-être le week-end en fait où tout peut encore basculer parce que bon, ben, le Real Madrid a l'opportunité en s'imposant aujourd'hui de revenir à 9 points du Barça. On ne sait jamais après sur une fin de saison avec 27 points à distribuer comment ça peut tourner. Mais non, je pense que voilà, ils sont focalisés sur la Ligue des Champions, sur cette finale de Copa. Tout le monde pense que c'est un peu la dernière saison de Carlo Ancelotti et lors de sa première saison, il avait fait le doublé Copa Ligue des Champions. Alors des fois, dans le football, il y a des signes aussi, ça ne trompe pas. Donc à voir un peu ce qui va se passer lors de cette fin de saison. Mais c'est sûr que sur la Liga, ça nous rappelle quand même un petit peu cette saison 2017-2018 sous Zinedine Zidane, où vraiment ben, le Real était très très loin du Barça, avait un peu lâché l'affaire en fin de saison, en faisant tourner en Liga, en se reposant pour après être fin prêt pour les matchs de Ligue des Champions. Pour faire écho un peu à cette rencontre face à Chelsea, on a eu cette rumeur un peu folle de Luis Enrique à Chelsea. Ça aurait été quand même assez intéressant de le voir débarquer là-bas pour ce match. Ça nous aurait donné, je pense, de beaux articles dans la presse. De belles émissions en Espagne, ça aurait été sympa, mais bon, voilà. C'est du coup Frank Lampard qui va reprendre Chelsea jusqu'à la fin de saison. À voir où Luis Enrique atterrira, parce que pour refaire écho encore une fois ce que j'avais dit, il était pressenti sur le banc de l'Atlético de Madrid, mais vu que Cholo va sans doute faire le top 4, il va être conservé pour la saison prochaine, donc à voir. Mais non, pour repartir sur le Real Madrid, voilà, je pense que sur cette fin de saison, c'est plutôt des matchs où ils vont tourner, donner de la confiance un peu à des joueurs de banc pour qu'en gros, ben, lors des grosses échéances européennes, avoir, je pense, ben, tout un groupe concerné en forme, avec du rythme pour être capable de justement, ben, pourquoi pas, pour eux, remporter une nouvelle Ligue des Champions. Et puis maintenant, sans transition pour parler du Barça, ben voilà, c'est un match qui je pense, peut faire quand même beaucoup de mal dans les têtes. Et alors, ça me fait faire écho un peu au parallèle de l'année dernière. L'année dernière, il y a eu ce coup de massue face à Francfort, au Camp Nou. Et juste après, le Barça a joué un lundi face à Cadiz et est passé totalement à côté de son match face à Cadiz. Et là, ben, il y a ce coup de massue face au Real Madrid et on joue lundi face à Girona. Et Girona, c'est quand même une très très belle équipe aussi cette saison. Ils ont montré de très belles choses, notamment face au gros. Ils sont renforcés par leur victoire le week-end dernier face à l'Espagnol. C'est une équipe qui n'est pas encore mathématiquement sauvée, mais pour qui on imagine quand même très très mal une descente. Il faudrait vraiment une catastrophe. C'est une équipe qui est, je pense, plus forte dans tous les domaines que les candidats à la deuxième division. Donc voilà, je pense que pour eux, c'est un match qui peut aussi, qui peut, pourquoi pas, relancer la Liga en fonction de ce qui se passe ce week-end. Parce qu'après, 9 points d'avance, c'est une équipe qui retraverse un peu une mauvaise période. On a vu que la période de Manchester United, Almeria, elle avait fait du mal. Alors il y a eu des victoires poussives, très poussives même juste ensuite, qui ont permis de relever un petit peu le niveau de l'équipe et donner vraiment de la tranquillité. Mais là, voilà, un 4-0 à domicile, c'est pas anodin. Il y a quand même des blessures. Pedri, Dembélé, Christensen et Frenkie de Jong, ben, on nous avait annoncé que c'était des blessures mineures. Bon, Dembélé et Pedri, on les voit plus depuis l'hiver. Où est-ce qu'ils sont passés, on ne sait pas. Normalement, il devrait revenir pour l'Atlético de Madrid, mais enfin bon, on nous avait quand même assuré qu'il serait là pour la première manche des demi-finales au Bernabéu. Donc ça fait quand même du temps. À voir Frenkie de Jong s'il sera là lundi face à Gérone, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait un Barça avec et sans Frenkie. Ça, bon, il y a peut-être des gens qui ont du mal à l'accepter, mais c'est la réalité. Il offre au Barça un contrôle au milieu de terrain qui est très difficile de trouver. Quand en plus Pedri est absent, malgré pourquoi pas les bonnes performances récentes de Sergio Busquets, de Sergio Roberto, voilà, quand il y a une équipe qui met vraiment de la pression au milieu de terrain, si tu n'as pas Frenkie de Jong, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est un match qui va être très intéressant aussi face à Gérone, parce qu'en plus, c'est un match aussi ben, très, très catalan, hein, entre deux clubs qui défendent les valeurs de la Catalogne. On sait que sera sous forme quand même d'indépendantisme aussi, cette rencontre. Donc voilà, ça va être très intéressant à voir avec une équipe de Girona et son petit joyau Roro Riquelme. Voilà, donc on a vu de quoi il était capable face à l'Espagnol avec des super dribbles. Il porte bien son nom. Et non, je pense que pour un match du lundi, ça va vraiment être une très belle affiche. On avait déjà eu le Real Madrid qui avait voyagé du côté du Rayo juste avant la Coupe du Monde le lundi. Récemment, l'Atlético de Madrid a aussi joué lundi. Là, c'est au tour du Barça de faire son match obligatoire. On sait que ces trois clubs-là ont l'obligation de jouer au moins un match par saison ce jour-là. Donc le Barça, en étant éliminé de toute compétition européenne, c'est normal que ça tombe maintenant. Du coup pour ce week-end. Mais voilà, c'est un match qui peut vouloir dire beaucoup, parce qu'en cas de belle victoire du Barça, on aura quand même, je pense, une équipe qui donnera l'impression de tourner la page et qui ira chercher un titre qui lui semble être promis. Et en cas de défaite, attention aux turbulences, aux doutes qui peuvent coûter cher. Et puis du côté de Girona, voilà, encore une fois, c'est ce que j'ai dit, c'est une équipe qu'on n'imagine pas descendre. Mathématiquement, c'est pas fait. Et c'est sûr qu'un succès au Camp Nou, ou même un nul au Camp Nou pour eux, ce serait vraiment un point qui leur donnerait, je pense, beaucoup de confiance. À voir quand même aussi ce qui va se passer du côté de la partie basse du classement. Si, imaginons qu'on tombe sur un week-end un peu fou avec tous les candidats au maintien qui se mettent à gagner, c'est vrai que ça pourrait les mettre aussi dans l'urgence. Donc voilà, ce sera un match avec beaucoup d'enjeux. Là où on pensait au final que tout était un peu plié, ben voilà, ces derniers jours, on participait à renverser un peu la vapeur, et ça va nous donner un lundi de Liga assez intéressant à suivre. Je ne sais pas si toi tu as un avis là aussi sur cette rencontre.
Si, si, bah c'est, tu l'as bien résumé. Déjà, rien que le fait que ce soit un derby, non seulement en plus catalan, qui va être forcément une affiche toujours particulière. C'est vrai qu'il y avait eu, il y avait eu Girona Espagnol la semaine dernière qui était un derby aussi, mais c'est vrai que, voilà, d'un point de vue identitaire et puis même aussi, voilà, par rapport à tout l'esprit catalan, c'est vrai que c'est un match encore au-dessus, ce Barça-Girona, évidemment. Et non, je te rejoins totalement, surtout que bah, Girona, mine de rien, c'est quand même une équipe bon, qui certes, voilà, tu l'as dit, n'est pas maintenue, mais qui mine de rien, quand on regarde le classement, en fait, n'est qu'à 3 points de la 7e place. Et voilà, on voit bien que même si derrière, effectivement, ça peut évoluer très vite parce qu'il y a eu, enfin, tu l'as dit, en tout cas, il y a eu, il peut y avoir en tout cas des équipes qui gagnent momentanément leur match, qui se reprennent, parce que mine de rien, c'est vrai que Valladolid et l'Espagnol déjà ont changé de coach, donc ça peut aussi insuffler une nouvelle dynamique. C'est vrai que cette équipe de Girona, en tout cas, elle est pas sauvée d'affaire, mais voilà, il n'y a pas trop de crainte à se faire. Et c'est vrai que ce match-là, bah, en soi, étant donné qu'ils partent clairement pas favoris, surtout voilà, que c'est quand même un déplacement au Camp Nou, c'est vrai qu'on peut peut-être avoir une équipe qui joue peut-être un peu plus relâchée, un peu plus avec peut-être un peu moins de pression aussi, parce que ils savent que venir au Camp Nou, c'est bon, c'est déjà une tâche difficile, mais qu'en plus de ça, ils sont pas dans, mais qu'à coup de ça, ils sont pas, pardon, dans une situation qui les oblige non plus à gagner sur le moment. Donc voilà, ça peut être aussi peut-être pas forcément une grosse surprise, parce que j'ai du mal à les imaginer gagner, mais c'est vrai que tu parlais d'un match nul. C'est vrai qu'effectivement, ça pourrait être une très bonne, enfin, ce serait en tout cas un très bon résultat pour eux. Et c'est vrai que le Barça, après cette élimination là, en Copa, et puis effectivement ces absents qui mine de rien pèsent, on l'a vu ben, mercredi, mais tu parlais notamment de quelques absents qui sont importants et qui manqueront aussi ce match. C'est vrai que voilà, peut-être y avoir un petit coup à jouer, on va dire, pour Girona ce lundi. Et voilà, en plus s'il y avait en tout cas au moins un point qui était pris au Camp Nou, ça serait une super performance. Et surtout, voilà, vis-à-vis du maintien, vis-à-vis bah, possiblement aussi de la course à l'Europe, parce que ça dépendra des résultats du Rayo, de l'Athletic et puis d'Osasuna qui joue ça ce samedi après-midi contre Elche. Donc en fait, voilà, c'est une équipe qui peut à la fois en fait se projeter, s'imaginer se projeter vers l'Europe, même si c'est vrai que c'est peut-être compliqué aujourd'hui d'imaginer Girona européen. Et qui en même temps garde quand même un petit œil sur ce qui se passe derrière, parce que même si voilà, ils ont 7 points d'avance pour le moment sur l'Espagnol qui est le premier relégable, il y a quand même, voilà, on l'a dit, une certaine qualité au-dessus par rapport au reste de ces équipes. Donc voilà, c'est une équipe qui est dans le ventre mou tout simplement, mais qui se prive pas de rêver d'Europe. Et ce match là face au Barça va être évidemment très important pour eux, pour le Barça aussi, parce qu'il y a évidemment besoin de reprendre confiance après la désillusion de la Copa, et puis quand même voilà, histoire de remettre la marche en avant et de pas laisser d'espoir au Real Madrid, même si c'est vrai qu'on a répété que ce serait très compliqué. Donc voilà, oui, un week-end qui va effectivement se clôturer sur une très belle affiche, pardon. Voilà, de manière générale, un très bon week-end de Ligue 1, encore une fois, qui nous attend, parce que on approche, mine de rien, des dernières journées, la 28e cette fois-ci. La 30e va être quand même le cap parce qu'on attaquera vraiment le sprint final. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les prochaines journées vont être décisives, et celle-ci, en tout cas, l'est déjà beaucoup. Donc voilà, on arrive à la fin de ce numéro qui a été très riche. On a parlé à peu près de toutes les équipes globalement dans cette Liga qui ont toutes des objectifs voilà, plus ou moins différents. C'est vrai qu'en fait, personne n'est pour le moment assuré d'être mathématiquement, en tout cas, soit vainqueur, soit relégué, soit européen. Parce que aussi bien dans la partie du ventre mou, on peut rêver d'Europe, comme on peut aussi eh bien, en tout cas, être vigilant à ce qui se passe derrière. Et même voilà, pour le tableau, on l'a dit, il y a une course assez folle qui se prépare. Et puis pour le tableau, évidemment, donc la lutte fait rage, en tout cas, et peut-être même une des plus belles luttes qu'on a vues ces dernières saisons. Donc je te remercie Sacha de m'avoir accompagné pour ce podcast. On arrive maintenant à la fin. Voilà, on aura beaucoup beaucoup présenté cette journée. Mais voilà, c'est en tout cas un très grand plaisir de pouvoir discuter avec toi autour de ce 28e week-end de Liga.
Également, hein, Fefe, tu le sais, on est toujours là pour vous présenter un petit peu les affiches du week-end. Là, on essaye un peu un nouveau format aussi, hein, vous l'avez remarqué depuis la semaine dernière, en parlant de la journée de manière plus globale, en abordant peut-être un peu plus de sujets, en y mettant moins de temps à chaque fois, mais en étant un peu plus, en essayant de globaliser un petit peu ce week-end-là. Donc, dites-nous un petit peu aussi dans les commentaires ou tout ça si justement ce format-là vous plaît. C'est important pour nous aussi de savoir un peu ce qui peut vous intéresser. En tout cas, nous, on apprécie aussi cette nouvelle manière de faire. Et puis, non, voilà, encore un grand merci, bien sûr, à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui réagissent à nos tweets, parce que voilà, la page, depuis quelques semaines, est sur un rythme qu'elle n'a tout simplement jamais connu. On réalise de très, très bonnes statistiques. On prend beaucoup de plaisir, bien sûr, à travailler pour ça, à partager. Et non, ça, voilà, ça nous fait vraiment très plaisir. Et merci à tous de nous écouter, de nous soutenir. Et voilà, on espère que cette 28e journée de Liga sera à nouveau riche en émotions et en spectacles.
Voilà, exactement. On revient en tout cas dès le week-end prochain pour reparler Liga après la semaine européenne qui sera donc écoulée. Et voilà, très bon week-end à tous et très bon match de la 28e journée de Liga.